Les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, bonjour à tous. La SIC a annoncé cette semaine qu'elle connaissait de grandes difficultés. Qu'en est-il des autres bailleurs sociaux? Quelle est leur situation? Et surtout, quels sont les défis qu'ils doivent relever les uns et les autres? C'est donc le thème de cette émission ce matin avec nos trois invités qui sont les trois directeurs généraux des trois bailleurs sociaux. Benoît Naturel pour la SIC, Christelle Inizan pour le FSH et Maud Perrano pour la SEM Sud Habitat. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur vos situations aux uns et aux autres, sachant que vous gérez des parcs importants. Alors le plus important, c'est la SIC et ensuite, je crois, le FSH et la SEM Sud Habitat à peu près sur des volumes équivalents. On va commencer avec vous, Benoît Naturel, parce que vous avez annoncé, hein, vous avez fait part de vos difficultés cette semaine. Difficultés financières d'abord, on en verra quelles sont les causes et quels sont les moyens peut-être pour y remédier. Mais aujourd'hui, quelle est la situation financière de la SIC ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est vrai pour beaucoup d'entreprises en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on arrivait déjà avant le 13 mai dans une situation financière qui était fragile. Bon, ça, on le connaît. Et avec un certain nombre de propositions de réforme qui a été faite auprès des pouvoirs publics. Et donc, le 13 mai est venu accélérer un peu, en fait, ces défauts. La difficulté aujourd'hui, comme n'importe quelle entreprise, donc près de 85% du chiffre d'affaires de la SIC est constitué des loyers qui sont payés par les locataires. Donc fatalement, dès lors qu'on connaît une difficulté économique comme on le connaît aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, ben, c'est un impact direct sur notre chiffre d'affaires. Donc le niveau d'impayé augmente et le risque, c'est qu'effectivement on arrive de plus en plus vers une insolvabilité grandissante des ménages. C'est pour ça qu'on est très attentif sur les trois mois qui viennent de s'écouler et surtout sur la stabilisation ou pas en fonction des aides qui sont versées en termes de chômage partiel, etc. sur les prochaines semaines.
Vous dites que les impayés ont tendance à augmenter. Dans quelle proportion? Est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, aujourd'hui, on est, si on compare sur la même période de mai à juin 2023, on était autour des 3%. On arrive sur des variations de taux d'impayé qui sont autour de 5,6%. Et qui sont surtout depuis mai, en constante augmentation. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si, enfin, on espère qu'on atteigne un plateau ou pas. Mais en tout état de cause, on estime que là où en 2023, on constatait à peu près un volume pour la SIC de 270 millions de francs d'impayés, les projections les plus pessimistes nous amènent vers 800 millions de francs d'impayés à la fin de l'année. Donc ça fait un chiffre conséquent.
Alors est-ce que vous connaissez vous aussi les mêmes tendances, Christelle Inizan? Est-ce que vous constatez de plus en plus de loyers impayés? Est-ce que la situation du FSH est aussi très compliquée aujourd'hui?
Alors à l'instar de mes homologues, oui, nous sommes inquiets par rapport aux loyers impayés. Alors pour vous donner une idée, de janvier à avril, c'est en moyenne 6 millions d'impayés constatés par mois, plus. Et au mois de mai, c'est 40 millions. 19 millions en juin, 17 millions en juillet et probablement à peu près la même somme en août. Donc on établit des prévisions à la fin de l'année autour de 180 millions d'impayés supplémentaires si la situation à l'identique constate les dégradations d'impayés locatifs.
Et du côté de la SEM Sud Habitat, Maud Perrano?
Alors la SEM Sud Habitat est comme ses homologues touchés par la crise. Effectivement, le constat qu'on fait sur nos impayés, on a essayé de se projeter. Alors les mois ne sont pas identiques, donc on a l'impression que les gens, parce que nous on a fait une politique de proximité très intense pour savoir effectivement la situation des gens, pour les accompagner, pour justement revoir leur situation. Et donc en juin, on avait un sursaut d'augmentation d'impayés par rapport au mois précédent de 20%. Et puis en juillet, quasiment rien. Et puis là, en août, on s'attend à peu près... Donc c'est de l'ordre, sur les 3-4 derniers mois, un sursaut de l'ordre de 10 à 15%. Donc effectivement, qui augmente le taux d'impayé de manière drastique. Un stock.
Oui, vous voulez ajouter quelque chose,
Maud Perrano? On a dû s'adapter immédiatement face à ce volume d'impayés qui a augmenté. Et effectivement, on constate quand même que le fait de déployer des actions de proximité a tendance quand même à stabiliser un peu le volume d'impayés qui partait dangereusement à la hausse.
Alors Benoît Naturel disait que le paiement des loyers représentait à peu près 75% des rentrées, 85% des rentrées financières. On est dans les mêmes proportions pour le FSH et pour Sud Habitat, pour le FSH d'abord?
Alors, on n'a pas les mêmes structures en réalité de fonctionnement. Le FSH, le FSH, c'est le 2% des cotisations des employeurs.
Le fameux 2%.
Le fameux 2%, effectivement. et le 2% représente 88% de la ressource du FSH. En revanche, la partie locative est assurée par le Fonds calédonien de l'habitat, et effectivement, les loyers représentent à peu près la même proportion, donc d'où le risque également sur la filiale.
Et pour Sud-Habitat, Maud Bernot ?
C'est même plus important dans le sens où nous, on n'a pas du tout de locaux commerciaux. On n'est vraiment que sur du loyer habitat. Donc effectivement, ça représente quasiment la totalité de nos ressources, en dehors des subventions qu'on peut avoir des collectivités, notamment de la province sud, pour tout ce qui est... Nous, on était encore dans un programme de construction de petits habitats.
On va revenir évidemment sur les conséquences de ces...
En dehors de ça, c'est que les loyers, effectivement, nos ressources.
Alors, pour parler clairement, parce qu'on sent qu'il y a de l'inquiétude, évidemment, chez les trois bailleurs sociaux, où en sont quels sont l'état de vos finances, j'allais dire, de trésorerie ? Est-ce qu'il y a des risques immédiats, imminents ? Est-ce qu'il faut vraiment alerter les pouvoirs publics ? Ils sont sans doute au courant. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des risques de dépôt de bilan ? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la situation financière et de trésorerie de vos différentes structures, Benoît Naturel?
Oui, on en a abondamment parlé ces derniers temps et qu'on partage avec nos deux actionnaires que sont la Nouvelle-Calédonie et l'Agence française de développement. On les alerte parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel alors encore une fois, les prévisions, enfin aujourd'hui, c'est très dur de prévoir quelque chose en Calédonie. Donc, bien sûr, les hypothèses qu'on expose et qu'on essaie de partager, on essaie de les faire les plus réalistes possibles. En l'état actuel des choses, on courrait un risque de cessation de paiement si rien n'était fait au premier trimestre de l'année 2025. Donc évidemment, ça, c'est si rien n'était fait. Donc vous imaginez bien qu'on ne fait pas rien. Et donc, on travaille avec nos actionnaires et nos administrateurs sur sur trois leviers qui sont assez classiques dans le milieu de l'entreprise. Le premier étant celui des économies. Donc on est sur un plan d'économie sur les 6 prochains mois de l'ordre de 3 milliards de francs. Pardon. Le deuxième étant, en fait, comment on restructure sa dette. C'est assez classique dans ces cas-là. Et le troisième, c'est effectivement les aides extérieures qui pourraient advenir. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Ça devient plus, on est plus légitime sur ces questions-là. Sur les deux premiers leviers, ce sont à notre main. Et donc, on n'attend pas pour faire les efforts qui sont nécessaires.
Est-ce que ce plan d'économie, il va venir sans doute sur les programmes que vous avez entamé, que vous n'allez pas réaliser. Est-ce qu'il va toucher aussi, pourquoi pas, la masse salariale ?
Alors, il intervient sur deux piliers. Il intervient sur le niveau des charges, effectivement, sur toutes les charges d'une entreprise, et enfin sur le report, effectivement, des investissements qu'on a jugé pas nécessaires. Et donc, on se recentre sur nos activités dites essentielles. Alors, on peut y avoir un débat sur qu'est-ce qui est essentiel. Mais en tout cas, pour nous, l'hygiène et la sécurité en est un. Et donc, du coup, on a calé nos investissements, en tout cas, sur cette logique-là. Ce qui est certain, c'est que, de toute façon, tous les programmes qu'on avait de grosse construction, de réhabilitation, ont été, dans nos prévisions, décalés de 2 ans.
On va y revenir, évidemment, là-dessus. Situation financière de la SEM Sud-Habitat, Maud Perrano.
Alors la SEM Sud-Habitat, elle a 20 ans d'existence, c'était la SEM Aglo, et justement on a changé d'identité l'année dernière suite à une recapitalisation pour justement marquer le coup. Donc effectivement, il y avait déjà eu le constat que le modèle était déséquilibré par nos actionnaires principaux, que sont d'abord la province sud et puis la Caisse des dépôts et consignations, qui ont remis donc à eux deux 1 milliard de francs dans l'entreprise l'année dernière. Donc la situation financière de l'entreprise avant cette crise était plutôt saine, puisque les décisions avaient été reprises, les modèles avaient été revus, et donc les opérations qu'on lançait, puisque nous, on était sur un développement de patrimoine à notre petite échelle, de l'ordre de 30 à 50 logements par an au maximum, mais sur justement la qualité des logements et correspondant un petit peu à un habitat qu'on pensait être plus moderne et répondant un peu plus au... Donc, on a continué, nos opérations qui étaient en cours sont maintenues. Bien sûr, par contre, les opérations prévisibles, c'est-à-dire notre projet de développement est en questionnement actuellement. Par contre, on tient effectivement, et pour l'instant nos finances nous le permettent, à tenir notre plan d'entretien. Donc bien sûr, il y a quelque chose qui était plus de l'ordre de l'amélioration. On était sur un gros programme d'équipement en chauffe-eau photovoltaïque, etc. Donc ça, on peut le différer parce que ça ne change pas l'entretien courant. Mais par contre, tous ces programmes de gros entretiens, etc., qui étaient sur nos résidences, nous semblent d'autant plus importants à l'heure actuelle. Et on essaye, au vu de la crise maintenant, de revoir aussi nos projets pour accompagner les résidences pour lesquelles, effectivement, il a semblé être plus difficile d'y vivre pour effectivement, accompagner nos locataires par rapport à ça.
Et Christaline Jean, sur l'état de santé financier du FSH.
Alors, le FSH a une santé financière avant crise qui lui permet aujourd'hui, en tout cas, d'amortir la dégradation des indicateurs. En revanche, bien évidemment, il ne faudrait pas que cette situation dure et perdure. Nous avons quand même, bien sûr, établi des variables d'ajustement par rapport aux dernières projections. Nous n'avons pas aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'évoquer de restructuration. En revanche, c'est vrai que les projets qui étaient discutés, mais non engagés, ont été suspendus. En revanche, l'ensemble des contrats qui étaient, eux, discutés, voire engagés contractuellement, sont poursuivis. Donc c'est quand même presque 4,6 milliards en termes de construction, valorisation de patrimoine et travaux d'entretien. Donc il est vraiment important, bien évidemment, pour le FSH et sa filiale de pouvoir continuer à honorer ses engagements et bien évidemment aussi intervenir sur les résidences et pour celles les plus fragilisées de pouvoir entreprendre un certain nombre d'actions au plus près des ayants droit du FSH.
Est-ce que les uns et les autres, vous avez subi des dégradations sur les parcs que vous gérez? Alors on a beaucoup parlé de la SIC à Tuban, Benoît Naturel. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui ont été comme ça éprouvés?
Oui. Alors les premiers endroits, et c'est ceux qui nous ont concernés dès le 14 mai malheureusement, c'est déjà, on a deux agences, on en a une à Saint-Quentin et une autour de Magenta qui ont été totalement détruites. Donc dans les premiers temps de la crise, l'idée c'était quand même d'essayer de préserver ce qui était préservable. Alors sur une des agences, on a réussi à récupérer des ordinateurs, l'idée étant d'être rapidement opérationnel en sortie de crise. Donc ça c'est les deux grosses principales, je vous passe après les dégâts matériels sur les voitures, etc. Les deux grosses principales destructions qu'on a pu subir sur notre parc, ce qui a demandé aussi d'ailleurs, on est encore dedans, de restructurer l'organisation puisque c'est à chaque fois 30 personnes et donc aussi de redéployer un dispositif de proximité parce qu'en fait aujourd'hui vous avez ces deux agences-là qui servaient un public dans un bassin de population est venu s'adjoindre les difficultés aussi du réseau de transport donc aujourd'hui on fonctionne depuis déjà depuis le 30 mai en fait sur un déploiement de dispositifs de proximité pour s'assurer que 100% des locataires ont à disposition rapidement un guichet de la SIC quoi. Et sur la destruction sur les logements c'est un audit qu'on a réalisé tout le mois de juillet. L'impact n'est pas significatif pour en parler ici. Il l'est plus en matière, et c'est là où ça a été un gros travail, et ça continue d'ailleurs avec les forces de l'ordre et les différents partenaires qui sont impliqués dans la gestion de la sécurité, sur la sécurisation des logements qui pouvaient être vacants, qui étaient des occupations illégales, etc. Donc ça, c'est pas de nature économique importante, mais en revanche, pour le retour à l'apaisement, etc., ça a demandé un travail assez conséquent, et ça continue d'ailleurs à demander un travail assez conséquent avec l'ensemble des partenaires.
Pour le FSH, il y a eu des...
Oui, également, beaucoup d'investissements avec les forces de l'ordre, comme le dit Benoît, pour retrouver de la sérénité dans les résidences. En revanche, pas d'impact sur les structures de bâtiments. En revanche, oui, les façades, les clôtures. Donc, nous aurons quand même des dépenses complémentaires. Nous avons eu deux agences pillées, vandalisées à Dumbéa, ce qui a aussi été très impactant, notamment pour le règlement des loyers, puisque nous avions une partie des ayants droit qui venaient régler leur loyer sur Dumbéa. Donc nous avons invité les salariés à rejoindre le siège au centre-ville et les salariés ont fait preuve de beaucoup de résilience à cet égard. Le travail est important pour continuer avec les ayants droit à pouvoir avoir un cadre de vie, retrouver un cadre de vie qui soit serein après les événements qu'on a pu connaître. Donc voilà, au niveau des impacts, nous avons eu le futur siège du FSH à Coutio qui donc a été partiellement incendié et qui va connaître donc 8 mois supplémentaires avant que nous puissions envisager de l'intégrer.
8 mois supplémentaires et des coûts supplémentaires aussi, j'imagine.
Et des coûts forcément, bien sûr, nécessairement, bien sûr.
Maud Perrano.
Alors nous, effectivement, on n'a pas eu de destruction. On a eu une agence vandalisée à Boulary. Et puis en dehors de ça, on a eu un incendie dans un parking, mais qui n'a pas affecté la structure. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu des dégâts importants. Effectivement, quelques dégradations, beaucoup de tags. Et effectivement, c'est plutôt ça. Et je rejoins mes collègues sur la sérénité à retrouver dans certaines résidences où on a plus eu de l'occupation, parfois importante, qui n'était pas d'ailleurs, qui venait de l'extérieur et pour lequel on remercie les forces de l'ordre qui ont fini par réussir à remettre un petit peu d'ordre et surtout à libérer, parce qu'on avait des locataires qui commençaient à être très inquiets. Donc il y a des choses qui se faisaient dans la discussion et d'autres choses qui ont été un petit peu plus compliquées. Et ça devenait important qu'auprès de nos locataires, on puisse retrouver cette sérénité.
Alors il y a plusieurs indicateurs que vous scrutez avec attention. On a parlé celui évidemment des impayés avec les uns et les autres. Il y en a un autre qui est aussi important, c'est celui du taux d'occupation ou des mouvements que vous pouvez noter, parce qu'on sait que ces émeutes ont provoqué aussi un certain nombre de mouvements, d'abandon ou de résignation, etc. Est-ce que là-dessus, vous avez des précisions à apporter ? Est-ce que vous notez des changements importants, Modinisant ?
Cristallinisant,
pardon. C'est Maud Perrano et cristallinisant, pardonnez-moi.
Oui, effectivement, on a pu mesurer sur, donc, pareil, la période de juillet, mai-juin-juillet, que nous avions moins d'entrées, moins de demandes d'entrées et effectivement plus de sorties.
Donc ça veut dire aujourd'hui que vous avez un parc avec des logements vides plus qu'avant, peut-être ?
Alors nous allons avoir, bien évidemment, un taux de vacances à surveiller de très près parce qu'en l'état actuel, effectivement, les logements risquent d'être de se libérer et de peut-être pas trouver preneur aussi vite qu'avant.
Maud Perrano.
Oui, alors effectivement, on a des demandes de préavis supplémentaires avec des gens qui, pour certains, quittent le territoire, retournent dans les îles ou quoi que ce soit. Pour l'instant, l'augmentation du taux de vacances n'est pas énormissime, mais effectivement, il y a un taux de préavis, s'il est respecté de 3 mois pour permettre aux gens de se retourner, qui parfois, du coup, on s'attend quand même à une augmentation. Et on essaie de déployer malgré tout. On est surpris que dans certains quartiers, on arrive quand même encore à faire rentrer des locataires. Mais effectivement, on n'aborde pas aussi la problématique financière, c'est-à-dire que les gens aussi, leurs difficultés, ça va être aussi leur capacité à payer le loyer. Et certains d'eux-mêmes, en fait, quittent les logements en disant qu'ils n'ont plus les capacités de payer et anticipent ce genre de choses et donc retournent soit dans leur famille, donc on s'attend à des suroccupations aussi à certains endroits. Et ce qui est plus inquiétant, c'est des retours dans des habitats précaires, hein, dans les squats, pour faire tout simplement par rapport à ça. Et donc effectivement, par rapport à ça, c'est plutôt inquiétant.
Benoît Naturel.
Oui, on est sur les mêmes tendances. Et ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'aspect... c'est effectivement un loyer non recouvré, donc c'est une perte de chiffre d'affaires. Mais après, c'est un logement vacant, c'est aussi potentiellement un risque d'occupation illégale. Donc ça pose un deuxième problème qui est aussi la surveillance en fait, de ces logements-là, pour éviter justement... Parce que comme on est tous depuis le début en fait, très, très engagés sur ces questions de retour à l'apaisement, retour à l'ordre même des fois, hein, plutôt que l'apaisement. Donc il faut qu'on ait aussi un point de vigilance supplémentaire par rapport à ça. Ce matin, on en parlait, il y a quand même des retours. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'état de sidération, ont demandé aussi un départ. Là, on constate des retours. Donc, à ce stade, on n'est peut-être pas encore assez stabilisé pour tirer des enseignements très clairs de ce qui est en train de nous arriver, malheureusement. Mais en tout état de cause, il y a tous ces sujets-là qu'il faut qu'on prenne à bras-le-corps, et notamment aussi les questions de relogement, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un logement, ça c'est une évidence, qui ne veulent plus y habiter pour des raisons que vous imaginez bien depuis les exactions. Donc il faut aussi savoir traiter ces départs et ces demandes de relogement. Donc c'est vrai que on est toujours sur une crise d'ailleurs, avec des considérations qui sont multiples, à la fois sur la gestion de l'impayé, sur la gestion de la demande tout court, pour essayer de... Parce qu'il faut savoir qu'un logement, c'est aussi une façon de maintenir l'emploi. Et puis en plus, vient se greffer aujourd'hui la difficulté de se déplacer. Donc les zones qui
sont
bien...
C'est toute une chaîne, oui.
Voilà, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à aborder.
Alors même si les situations des uns et des autres ne sont pas tout à fait les mêmes, on a bien compris que de toute façon, il allait falloir faire des économies et faire attention aux mois qui viennent. Vous avez déjà parlé les uns et les autres de plusieurs leviers, mais est-ce que ça veut dire très concrètement, parce que forcément, il y a de nombreuses questions qui se posent sur le parc locatif aujourd'hui, que les travaux de développement prévus, les nouveaux programmes sont stoppés, arrêter, vous allez vous consacrer plutôt à la rénovation, à la réhabilitation dans certains cas, ou est-ce que malgré tout, malgré ces difficultés, certains programmes vont quand même continuer à vivre et est-ce qu'il y a besoin de nouveaux logements sociaux ? C'est une question qui est assez récurrente aujourd'hui. Qui veut commencer ?
Alors pour le FSH, on est plus tourné vers... Oui. Pour le FSH, plus tourné vers l'accession à la propriété, oui, qui est l'ADN du FSH. Et en effet, les projets sont poursuivis.
On parlait par exemple, je sais qu'il y a un projet lancé à la vallée de Sakamoto, hein, qui était un développement important pour le FSH. Est-ce que ce projet se poursuit ?
Oui. Oui, ce projet se poursuit. Et effectivement, il est très important. Il est Vraiment, il s'inscrit en tout cas dans l'ensemble des échanges que nous pouvons avoir avec nos différents partenaires et aussi l'analyse du besoin et de la demande sur la zone. Donc voilà un projet qui, en tout cas, est poursuivi. C'est le cas aussi pour d'autres projets qui étaient engagés. Nous avons aussi à Rivière Salée, le River Star, qui est aussi en réflexion. Donc voilà, c'est des sites pour parler de la rénovation qui sont inscrits dans différents projets, différentes démarches, mais qui sont poursuivis par le Fonds social de l'habitat.
Voilà, des projets de rénovation, mais
de construction et de rénovation. Oui, hein, essentiellement, oui.
Maude Perrineau.
Alors effectivement, avec la crise qui s'est passée et tout ce qu'on entend sur les départs, c'est un petit peu difficile de se projeter sur le besoin en logement de manière globale. Après, ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis du logement social, on peut imaginer malgré tout qu'avec les difficultés financières que traverse tout le monde, il devrait y avoir un besoin quand même assez important. Après, peut-être qu'effectivement, dans la masse de logements qui existent sur l'agglomération, ça pourrait suffire. Mais pour ça, ça veut dire qu'effectivement, c'est aux politiques publiques de réfléchir à ce sujet. Hein. Pour le coup, on est très attentif et très en attente de ces réflexions-là. Ce qui est sûr, c'est qu'au-delà, quand on parle rénovation, on imagine juste de remettre en état pour certains.
Un coup de peinture.
Alors qu'effectivement, ce qui sera toujours nécessaire, c'est que de toute manière, les besoins évoluent. C'est-à-dire que les gens n'aspirent pas aux mêmes choses il y a 20 ans que maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner ce genre de choses, et on voit bien, pour le coup, pour avoir fait des constructions neuves et finissant certaines constructions, que c'est ça qui rend attractif, c'est-à-dire d'avoir mieux pensé, enfin penser dans l'état actuel des choses, des besoins des gens, c'est cela qui marche le mieux. Donc imaginez qu'on ne reconstruira rien de plus. Alors effectivement, la question de la propriété peut être une réponse, mais en locatif, il y a des gens, je pense qu'il faut admettre qu'il y a des gens qui feront leur parcours résidentiel entièrement dans leur locatif toute leur vie, et ils peuvent très bien vivre. Nous, on a des résidences à Païta qui sont des petites maisons, c'est du logement social, et je pense que les gens y vivent très bien. Donc c'est plus une réflexion globale sur le besoin, et donc après, en termes d'accompagnement, on rend notre mission le mieux possible. Donc nous, notre ADN, c'est de continuer à construire en petite quantité du logement social adapté. Bien sûr, là, la crise bouleverse un peu les choses, on va prendre le temps de se poser avec nos partenaires financiers.
Benoît Naturel, les priorités de la SIC, des nouveaux programmes ou pas ?
Non, déjà depuis 2 ans, il n'y avait plus de nouveaux programmes, et l'essentiel de notre plan stratégique de patrimoine était tourné sur la restructuration et la réhabilitation du parc de logements. On avait bâti un plan qu'il faudra nécessairement revoir de façon à l'aune de ce qui vient de se passer. On n'est pas encore dans cette phase-là, mais de 30 milliards sur 10 ans. Et ce que je veux dire, c'est qu'aussi, au-delà des aspects quantitatifs, alors effectivement, pour l'instant, je pense que c'est peut-être trop tôt pour savoir un peu la nature du besoin, etc. Il y a quand même des besoins qui sont toujours là. Hein. La population calédonienne continue de vieillir. Il y a des besoins qui sont différents en termes de handicap. Il y a des travaux qu'on avait estimé aussi devoir faire, notamment pour l'adaptation au changement climatique. Donc tous ces besoins-là restent, malgré toutes les crises que la CAI puisse traverser, ces besoins-là restent, et il va falloir nécessairement s'adapter. Comme disait Maud tout à l'heure, le parc qu'on a construit il y a 20 ou 30 ans, il répondait à un besoin défini à cette période-là, il ne sera plus le même aujourd'hui. Sachant qu'on a auprès des trois bailleurs des histoires différentes, hein, la SIC, le parc moyen a 20 ans à peu près, 21 ans, donc c'est sûr, c'est des natures d'intervention qui sont différentes.
Est-ce que, alors on sait bien que ce n'est pas forcément pendant une crise qu'il faut envisager l'avenir, mais quand même, est-ce que ce que traverse la Nouvelle-Calédonie et les défis auxquels vous êtes confrontés les uns les autres vous pousse à vous dire qu'il faut quand même qu'on se pose un instant et réfléchir à ce qu'on va faire par la suite, parce que bon, là on ajuste sur des programmes, sur de la rénovation, etc., mais on est dans l'ajustement d'une certaine façon pour s'adapter à l'urgence. Est-ce qu'il faut quand même, d'une certaine façon, réfléchir à l'avenir, peut-être aller plus loin, peut-être ensemble, peut-être avec d'autres partenaires, peut-être avec les communes. Enfin voilà, comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être une réflexion de fond à mener autour de l'habitat social dont on sait qu'il est très évolutif ?
Bien sûr.
Bah, allez-y, qui veut répondre ? Allez-y, Maude Perrineau.
En tout cas, parce que vous nous demandiez ce qu'on en pensait, enfin comment nous on se projetait, moi le constat que j'en fais, c'est qu'en tout cas, l'accompagnement social est primordial. On a bien vu là, au stade de la crise, que ils étaient très contents, nos locataires, d'avoir enfin des réponses et des échanges. Et je pense qu'on oublie souvent que notre métier, d'abord, c'est l'accompagnement social et qu'on est en première ligne par rapport à ça et que ce n'est pas que de construire des logements, mettre les gens dedans. Le social, le logement social, c'est un accompagnement qui va avec, un accompagnement financier à travers des aides au logement, des choses comme ça, mais c'est aider les gens à monter leur dossier et surtout avoir de l'écoute. Et en ces temps de crise, effectivement, le constat que je fais, c'est surtout le besoin d'écoute et le besoin d'accompagnement. Et donc là, on est en pleine mutation. Donc effectivement, je ne sais pas ce qu'à l'avenir, et on échange beaucoup tous les trois par rapport à ça, parce qu'on fait le même métier. Mais en tout cas, effectivement, c'est une donnée qu'il faut absolument prendre en compte. Ce n'est pas que de la construction et des modèles financiers, c'est vraiment l'humain au cœur. Voilà, exact.
Benoît Naturel.
Oui, je posais la question de savoir s'il fallait se poser. Oui. Et je pense que c'est toute la Calédonie, de toute façon, qui va devoir se poser et réfléchir. Et donc, nous, par ricochet, aujourd'hui, clairement, pour ce qui est de la SIC, nous, on assure déjà notre survie. C'est une façon aussi de pas insulter l'avenir. Et sur la réflexion, il faudra nécessairement le faire, ne serait-ce que déjà, d'un point de vue démographique, il faudra tirer des conclusions aussi de ce qui va arriver à la Nouvelle-Calédonie. Après, pour ce qui est des perspectives, ça, bien sûr, il faudra en discuter avec les politiques. Et après, je rejoins ce que disait Maud, c'est-à-dire que dès le 15 mai, on était sur le terrain, parce que ne serait-ce que déjà pour rassurer des étudiants qui étaient bloqués dans telle ou telle résidence, rassurer les personnes âgées qui n'avaient plus leurs médicaments, etc. On voit le travail qui a été fait par les bailleurs sociaux avant cette crise et pendant cette crise, au-delà du chiffre, au-delà de la demande, ce qu'on nous demande aussi, c'est d'accompagner des parcours différents, en fait. Et donc, on n'accompagne pas de la même façon un étudiant, une personne âgée, une femme seule avec des enfants. Et c'est ce dispositif de proximité-là qu'il faut promouvoir et de lien social. C'est pour ça que, du coup, tous les trois ensemble, notre priorité dès le début de la crise, ça a été de se dire comment on va retourner très rapidement sur le terrain. Donc l'appel à l'apaisement, il est bien sûr commun à tous les Calédoniens, mais à plus forte raison notre métier pour assurer, parce que tout à l'heure on parlait du loyer, mais il y a une appétence à payer son loyer, et donc s'il n'y a pas tous les services qui vont autour, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas.
En gros, c'est trop tôt pour engager une grande réflexion, hein.
C'est trop tôt, mais nous, on l'a déjà mis, notamment en termes de démolition. Voilà, il y a des sujets qu'il faudra nécessairement aborder sur un parc ancien qu'on envisageait en réhabilitation. Est-ce qu'à l'aune de ce qui vient de se passer, il faudra le réhabiliter, pas plutôt le démolir? Voilà, ce type de discussion-là. Mais en tout cas, prendre des décisions, clairement, c'est pas le moment.
Oui. Christelle Lignan.
Oui, il est un peu trop tôt pour prendre des décisions. En revanche, l'âge moyen du parc du Fonds social de l'habitat et sa filiale, c'est 11 ans. Donc, on voit qu'on n'a pas non plus les mêmes problématiques et les mêmes engagements financiers. En revanche, le lien social et l'aspect proximité a été effectivement très important, et ça l'a été immédiatement. Les équipes se sont mobilisées, ont accompagné les ayants droit. Ça a permis également de pouvoir trouver des solutions pour les situations d'urgence, qu'elles soient alimentaires, médicales ou autres. Et on a vu qu'il y avait urgence à maintenir et développer ce lien social. Après, on doit poursuivre aussi l'ensemble des contrats qui sont engagés. C'est économiquement très important. Donc il faut que le FSH puisse continuer à honorer ses engagements. Et puis, bien sûr, être totalement engagé dans les réflexions, la collaboration et tous les sujets qui concernent le logement social en Nouvelle-Calédonie et pour lesquels nous pouvons assez souvent avoir des échanges avec Maud et Benoît sur les différents sujets.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans cette émission pour nous parler de cette situation des bailleurs sociaux. On a bien compris qu'il y avait des questions encore à résoudre et qu'on aura sans doute l'occasion de se revoir dans cette émission. Merci en tout cas à tous les trois. Une émission qui sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques minutes. Je vous souhaite une belle après-midi.